programme qui suit a été réalisé dans le cadre d'un atelier fiction radiophonique au lycée LP Donation de Rothschild à Saint-Maximin par les élèves de première bac pro maintenance aéronautique et maintenance des matériels de manutention, encadrés par leur professeur de français Vanessa Degler et l'équipe de Radio Campus Amiens. Ils et elles se sont basés sur le livre « L'étranger » d'Albert Camus pour transformer l'épisode du procès de Meursault en fiction radiophonique. Une fiction que je vous laisse découvrir à présent.
Mon affaire était inscrite à la dernière session de la cour d'assises, et cette session se terminait avec le mois de juin. Mon avocat m'avait assuré qu'il ne durait pas plus de 2 ou 3 jours. À 7h30 du matin, on est venu me chercher et la voiture cellulaire m'a conduit au palais de justice. La salle était pleine à craquer. Il y a beaucoup de monde.
Oui, c'est à cause des journaux.
Il connaissait l'un des journalistes qui d'ailleurs se dirigeait vers nous. C'était un homme déjà âgé, sympathique, avec un visage un peu grimaçant. Il a serré la main du gendarme et a dit en se tournant vers moi.
J'espère que tout ira bien pour vous.
Merci.
Vous savez, nous avons monté un peu votre affaire. L'été, c'est la saison creuse pour les journaux. Il n'y avait que votre histoire et celle du parricide qui vaillent quelque chose. Vous voyez l'homme là-bas ?
Et il a montré au loin un petit bonhomme qui ressemblait à une belette engraissée avec d'énormes lunettes cerclées de noir. Et il m'a dit :
c'est un journaliste de Paris. Il n'y est pas venu pour vous d'ailleurs. Mais comme il est chargé de rendre compte du procès du parricide, on lui demande de câbler votre affaire en même temps.
Il a fait un petit signe cordial de la main et est parti. Nous avons attendu quelques minutes et mon avocat est arrivé en robe entourée de beaucoup d'autres confrères. Tout le monde a regagné sa place. Mon avocat est venu vers moi, m'a serré la main.
Je vous conseille de répondre brièvement aux questions qu'on vous posera.
À ma gauche, j'ai vu un grand homme mince, vêtu de rouge, portant lorgnon et s'asseyait en pliant sa robe avec soin. C'était le procureur. Un huissier a annoncé la cour. 3 juges, 2 en noir et le 3e en rouge, sont entrés avec des dossiers et ont marché très vite, vers la tribune. L'homme en robe rouge s'est assis sur le fauteuil du milieu, a posé sa toque devant lui, essuyé son petit crâne chauve avec un mouchoir et déclaré « l'audience est ouverte ».
Maître, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Maître Tanzi, avocat de Monsieur Meursault.
Je vous remercie. Je vais maintenant procéder à l'appel des témoins.
Lucier a lu des noms qui ont attiré mon attention. Thomas Pérez, Raymond, Masson, Salamano Marie.
Les véritables débats vont commencer. Du calme, s'il vous plaît. Je veux diriger le procès avec objectivité et impartialité. La décision sera prise dans un esprit de justice. Nous allons en discuter. En cas d'incident, je ferai évacuer la salle. Accusé, veuillez décliner votre identité.
Je m'appelle Meursault, j'habite à Alger.
Maintenant, je veux aborder des questions sur l'affaire qui semble apparemment étrangère à cette affaire, mais qui en réalité la touche de près. Monsieur Meursault, pourquoi vous avez mis votre maman à l'asile ?
Je manquais d'argent pour la faire garder et soigner.
Est-ce que c'était dur pour vous de la mettre à l'asile ?
Ni maman ni moi n'attendions plus rien l'un de l'autre. Nous nous étions habitués à une vie nouvelle.
Je ne veux pas hésiter sur ce point. Procureur, avez-vous d'autres questions ?
Vous avez retourné vers la source tout seul avec l'intention de tuer l'arabe.
Non.
Alors pourquoi étiez-vous armé et pourquoi revenir sur cet endroit précisément ?
C'était le hasard.
Ce sera tout pour le moment.
L'audience est levée. Nous nous retrouverons cet après-midi pour l'audition des témoins. Nous allons maintenant procéder à l'audition des témoins.
Bonjour, je suis le directeur de la maison de retraite où vivait Madame Meursault.
Comment a réagi Meursault à l'enterrement ?
J'ai été surpris du calme de Meursault. Il n'a pas voulu voir sa mère, il n'a pas pleuré une seule fois. Il est parti aussitôt l'enterrement terminé sans même se recueillir sur la tombe de sa mère. Il ne connaissait pas non plus l'âge de sa mère.
Est-ce que Madame Meursault se plaignait de son fils ?
Oui, elle se plaignait, mais c'est la manie de tous les pensionnaires.
Monsieur l'avocat général, avez-vous des questions à poser aux témoins ?
Oh non, cela suffit.
Attendons le concierge.
Meursault ne voulait pas voir sa mère. Il m'a offert une cigarette.
Ce qu'il dit est-il vrai ?
Oui, je vais bien faire une cigarette.
C'est moi qui lui ai offert le café au lait.
Autour de Thomas Pérez.
J'ai surtout connu sa mère. Je l'ai vue une seule fois à l'enterrement. Et J'étais tellement triste que je n'ai rien vu. C'était pour moi une grosse perte. Je me suis même évanoui. Mais pour répondre à votre question, je ne l'ai pas vu pleurer.
Vous l'avez vu ne pas pleurer?
Non.
Voilà l'image de ce procès. Tout est vrai, rien n'est vrai.
Merci messieurs, la séance est levée.
Mon client plaide coupable, mais avec excuse.
Mais je...
Chut, taisez-vous. Cela vaut mieux pour votre affaire.
J'ai la certitude qu'il a prémédité son crime.
Je le prouverai, grâce à la psychologie de ce criminel. La mère de Morceau est morte. Il s'est déplacé à l'enterrement, mais il ne semblait pas triste. Par contre, il semblait très gêné par la chaleur. Cela choquait les gens pendant l'enterrement. Cet homme est complètement insensible. Le lendemain de l'enterrement, il est allé se baigner. Il a rencontré une ancienne collègue. Ils sont allés au cinéma. Vous savez quoi, les jurés? Il est allé voir un film drôle. Rendez-vous compte, il a passé la nuit avec une femme alors que sa mère a été enterrée la veille. Oh.
Et voilà, messieurs, cet homme est gentil. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Il a agi sans se rendre compte de ce qu'il faisait. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Il a seulement exprimé des regrets.
Mais comment dire? Je n'ai jamais pu regretter vraiment quelque chose. Je suis comme ça.
Cet homme n'a point d'âme et rien d'humain. Il n'a aucun principe moral. Le vide du cœur tel qu'on le découvre chez cet homme devient un gouffre où la société peut succomber.
Mon avocat affirme qu'il n'a pas prémédité son crime et qu'il existe des circonstances atténuantes. Je vais vous le prouver. Il est vrai que j'ai tué.
Ça va pas la tête? Pourquoi il parle de moi à la première personne?
Mon client est un honnête homme, un travailleur régulier, infatigable, fidèle à la maison qu'il employait, aimé de tous et compatissant aux misères d'autrui.
J'ai l'impression que cette plaidoirie n'en finira jamais. J'ai pensé que j'allais m'écarter encore de l'affaire, me réduire à zéro, et en un certain sens me substituer à moi. Mais je crois que j'étais déjà très loin de cette salle d'audience.
C'est mal connaître mon client. Les jurés ne voudraient pas envoyer à la mort un honnête homme perdu.
L'avocat m'a semblé ridicule. Il n'a pas parlé de l'enterrement et j'ai senti que cela manquait de sa plaidoirie. Mais à cause de toutes ces longues phrases, de toutes ces journées et de ces heures interminables pendant lesquelles on avait parlé de mon âme, j'ai eu l'impression que tout devenait comme une eau incolore, où je trouvais le vertige.
Je demande qu'on soit reconnu des circonstances atténuantes pour un crime pour lequel mon client traite déjà le remords éternel.
Merci, l'audience est suspendue.
Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, j'ai confiance. Vous aurez tout au plus quelques années de prison.
Est-ce que j'aurai des chances en cassation si le jugement est défavorable?
Bonjour, je suis journaliste. Est-ce que vous pouvez répondre à quelques questions? Excusez-moi, vous pouvez répondre quand on vous parle? Non, vous ne voulez pas me parler? Bah j'écrirai mon article sans vos réponses.
Enfin du calme, il me fatiguait. Maman, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas pensé à toi. Je comprends enfin pourquoi maman s'est fiancée à la fin de sa vie. Elle avait envie de recommencer sa vie, de se faire une nouvelle, un nouveau départ avant sa mort, avant la fin. Elle se préparait une deuxième vie car elle se sentait libre si près de la fin. Est-ce que juste avant la mort, tout le monde se sent libre de recommencer une vie? Avons-nous le temps libre où nous pouvons faire ce que l'on veut sans exception? Je me demande. Et moi aussi, je me sens prêt à tout revivre. Je sens que j'ai été heureux. Et que je le suis encore. J'espère que le jour de mon exécution, il y aura plein de monde pour que je me sente moins seul et qu'ils crieront mon nom avec des cris de haine.
Ce programme a été réalisé dans le cadre d'un atelier fiction radiophonique au lycée LP Donation de Rothschild à Saint-Maximin, donc par les élèves de première bac pro maintenance aéronautique et maintenance des matériels de manutention, encadrés par leur professeur de français et l'équipe de Radio Campus Amiens. Ils et elles se sont basés sur le livre L'étranger d'Albert Camus pour transformer l'épisode du procès de Meursault en fiction radio. Vous pouvez retrouver ce programme en intégralité sur le site radiocampusamiens.fr.